délicat.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans l'arrière, on se met ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira-Zanuto, bonne arrivée la famille nombreuse. Demain, nous recevrons une chanteuse dont nous sommes fans, dont je suis surtout très fan. Coco Bopala sera dans Couleur Tropicale. Bon, vous me direz qu'à Couleur Tropicale, nous n'invitons que les artistes, créateurs et autres pour qui nous avons de l'admiration afin de les mettre en valeur et qu'elles et ils soient stars ou au début de leur aventure, de leur carrière. Et toujours ce mercredi 3 avril, nous évoquerons la loi contre la discrimination capillaire en France. Ça va être un grand moment. Une soirée à la maison, vous le savez, ne peut être réussie sans quelques membres de la famille de Couleur Tropicale ayant compris l'importance de rentrer à la maison lorsque papa a préparé le dîner. KJ, Jean, Simoes, Banet, De Fonseca, dans le désordre. Et Laurent Pachon.
La même personne, c'est très bien. Qu'est-ce que tu cuisines alors? Qu'est-ce que tu nous fais?
Si tu veux, tout ça est très numérique, très digital.
Ah, bien.
Très hertzien également.
Très bien.
Avec quelques images, puisque dans le studio 51, évidemment, tout est filmé. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui, en ce jour, en ce 2 avril, est un élément important pour vous dans votre journée? Qu'est-ce qui a marqué votre journée?
Eh bien, la perte de notre grande Maryse Condé.
Eh oui. Mmh.
Et je salue toute la famille et invite aussi tous ceux qui s'y intéressent et qui lui rendent hommage à faire aussi preuve un petit peu de discrétion et pour que la famille prenne le temps.
Ouais. La première chose que Laura m'a dit en arrivant dans le studio, dans le bureau même, c'est « Tu as vu Maryse Condé nous a quittés ». On va rendre hommage tout à l'heure à Maryse Condé avec la comédienne Nathalie Coily qui justement travaille en ce moment. Elle a déjà joué son spectacle en Guadeloupe, « Desirada ». Donc c'est l'un des ouvrages de Maryse Condé. Notre première invitée, et justement puisque nous évoquons Maryse, est écrivaine, journaliste, photographe et réalisatrice. Son travail consiste à mettre en valeur, en images et en écrit, dans ses récits, les opprimés, les laissés pour compte, la moitié de la population mondiale, il faut bien le dire. Depuis 24 ans, cette native de Garoua, au Cameroun, propose des documentaires et dans une Afrique réclamant plus de regards africains sur la marche et l'état du monde, notre invitée est une éclaireuse, une passeuse d'histoire, de la condition humaine, une héroïne, Oswald Levat.
Bonsoir.
Oswald. MK, l'armée secrète de Mandela, est ton nouveau documentaire. Donc, il sera présenté ce 4 avril à Paris et diffusé le 9 avril à 23h sur Arte. Alors, on peut déjà le voir, hein, puisqu'Arte a une politique où on peut voir, avant qu'il soit diffusé sur la chaîne, on peut voir certains documentaires. Ils le font et c'est plutôt bien. Est-il facile de revenir sur, justement, cette guerre de libération en ce début de 21e siècle? Est-ce que c'est un thème qui intéresse évidemment toujours, car les Sud-Africains, certains Sud-Africains parfois aussi veulent tourner la page?
Oui, c'est une excellente question. On entend souvent dire cela effectivement en Afrique du Sud et même parfois des jeunes générations en Afrique. L'histoire, ça semble loin. Il faut avancer dans le monde moderne se détacher de ce qui s'est passé. Mais la question mémorielle est pour moi essentielle parce que je pense que quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas se construire et on ne peut pas savoir quelle identité on a héritée. Et en Afrique du Sud, c'était une guerre de libération sud-africaine, bien sûr, mais je pense qu'elle était aussi africaine, ouais, puisque de nombreux pays africains se sont impliqués dans la guerre de libération en Afrique du Sud. Et qu'aujourd'hui, quand on voit le continent, quand on voit les dysfonctionnements dans certains pays, on se dit qu'un petit coup de projecteur, de rétroprojecteur sur l'histoire, ne fait pas de mal.
Et puis, ce que tu nous racontes là, s'est déroulé en pleine guerre froide, et je pense que d'autres peuples du monde aussi étaient dans ce combat-là. On va en parler, on a beaucoup de questions à te poser sur ce documentaire. Notre second invité n'est pas politique. Il n'a pas accompagné Emmanuel Macron lors de son passage éclair en Guyane. Cette terre est la sienne, je parle de la terre guyanaise, mais c'est en France, à Rennes, que l'envie de musique se fait entendre, et c'est à Paris qu'il se voyait déjà en haut de l'affiche. C'est fait puisque cet artiste-là est déjà un grand quelqu'un, et puisqu'il a Couleur Tropicale, Screech. C'est doublement un grand quelqu'un.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Screech, merci d'être là. C'est la première fois qu'on te reçoit dans Couleur Tropicale.
Première fois, merci à toi pour ce beau message, ça fait plaisir. C'est la toute première fois qu'on se voit même.
Alors tu as échappé parce que habituellement il y a une tradition dans Couleur Tropicale que notre réalisateur Mathieu déteste. C'est la séquence la première fois, et là on fait la première fois que t'as fait ça. La première fois tout.
Ok, j'ai capté.
Mais il n'est pas impossible que, je sais pas, si je veux improviser. C'est vrai que tu voulais devenir footballeur ?
Ouais, au tout début.
Ouais, mais alors justement, alors tout ça se bousculait dans ta tête. Finalement, c'est un peu la même chose, puisque football, musique, tu rencontres un public.
Ouais, tu rencontres un public, et en vrai de vrai, c'est de l'art dans tout.
Ouais.
Et on va devenir footballeur, je voulais faire footballeur avant. Et après, la musique, c'est venu tout seul.
On va parler de toi, on va parler de ton parcours, parce que tu fais des choses extraordinaires, que ce soit pour toi ou pour les autres. Je vous présente Laura Ekedje.
Enchantée.
Bonsoir Laura, bonsoir Kedje.
Bonsoir. Regardez-les bien toutes les deux dans les yeux, parce qu'elles ont des questions et très pertinentes à vous poser. Mais jamais de questions pièges, comme je le disais dans le début de cette émission, on ne reçoit que les gens pour qui nous avons de l'admiration. Donc voilà, merci d'être avec nous. Screech, tout de suite, avec Ghost and Tommy. Il va falloir que tu nous expliques, sur cette question-là aussi. Bonne arrivée si vous nous rejoignez, c'est Couleur Tropicale, originale et légale. Et vous le savez, en ce jour, c'est la famille qui reçoit et qui reçoit nos invités.
Selfie, bisous, story. Cheveux bouclés, Sahraouia, on a du corps. Instru, punchline, quand j'aille. On fait des sauts, on a des plans, ils sont jaloux. Mon ciel n'est pas si coloré. J'ai donné du temps à des gens malhonnêtes. Ils peuvent gâcher ta vie avec une fausse Rolex. Ouais, c'est la vie, ouais, c'est la vie. Yeah, yeah. Y'a pas de pique sonner. Non, y'a pas de pique sonner. Plus je grandis, moi j'ai d'amis. Y'a pas de pickin' sunny. Y'a pas de pickin' sunny. Y'a pas de pickin' sunny. Mais je conduis, moi j'ai d'amis. Y'a pas de pickin' sunny. Nos deux chemins se séparent, lève pas le vide. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans le vide. Si je te vois en bizarre, tu finis en remis. En remis, en remis, oh, dis-moi où t'es. Toutes les cités se connaissent, de gars, je bois la baie. Envoie-moi une adresse, là je suis dans la durée. Si je te vois en bizarre, tu finis en remis. En remis, en remis, oh, dis-moi où t'es. Y'a pas de pique sonner. Non, y'a pas de pique sonner. Puis je grandis, moi j'ai d'amis. Y'a pas de pique sonner. Y'a pas de pique sonner. Y'a pas de pique sonner. Puis je grandis, moi j'ai d'amis. Y'a pas de pique sonner. Positif, coloré, yeah. Positif, coloré. Y'a pas de pique sonner.
Ghost and Tommy Screech. À Couleur Tropicale, nous aimons décortiquer les textes. Mais pas peur. Tu dis dans ce titre, toutes les cités se connaissent, de Garges au Bois-l'Abbé. C'est bien, tu connais, tu as pris les deux opposés.
Les deux opposés.
C'est bien. Envoie-moi ton adresse, je suis devant la durée. Est-ce une façon pour toi de dire qu'il est très facile, parce que tu n'as pas de complexe, de passer d'un quartier chic, parce que la durée, c'est un... restaurant un peu chic. Alors, il y en a plusieurs dans Paris, mais celui-là, allez, sur les Champs-Élysées. Pour celui des Champs-Élysées, est-ce une façon donc pour toi de dire que tu passes de lieux très chics à des lieux très populaires?
Bah, c'est exactement ça. C'est, en gros, tu peux passer de plusieurs endroits, tout le monde se connaît. En fait, c'est une manière de dire que tout le monde se connaît, en fait.
Ouais.
Le monde, il est tellement petit. En fait, comme on dit, on est à deux poignées de main de qui on veut dans le monde. C'est ça la citation, non, je crois.
Ouais, oui, oui,
six.
Exact.
Six.
T'es pas
six. Non, oui, c'est six.
Sûr.
Mais peut-être qu'on est entouré
dans son réseau et qu'elles sont en majorité.
Elles sont en majorité aussi, hein.
Là, je crois, j'accorde.
Oui, mais voilà, d'accord. Donc, tu es encore beaucoup plus précis que ce que je pensais. Tu vois, non, mais c'est bien. Moi, je pensais que parce que tu passais d'un endroit à un autre, c'était très égotrip. Et là, pas du tout. Toi, tu parles pour les uns et les autres.
Oui, c'est important.
Bah oui.
Sinon, ça sert à rien de chanter.
Exactement. KJ.
Alors, tu as tout de même écrit aussi pour Aya Nakamura. Et là, elle fait la une de l'actualité pour toutes ces polémiques raciales. Tu as écrit des textes à succès aussi comme « Pourquoi tu forces ?» ou « Idiot ». Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de ce qu'elle est en train de vivre actuellement? Est-ce qu'elle est légitime pour toi d'interpréter Edith Piaf? voilà.
Mais déjà d'une, c'est une artiste. C'est-à-dire qu'un artiste peut tout faire, en vrai. Il n'y a pas de limite. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'artiste féminine la plus streamée dans le monde entier en tant que française. Donc, en vrai, qui peut parler avec elle, en vrai?
Alors,
j'aurais une question.
Ouais, non, mais fais attention. Faudrait que Scridge fasse vraiment très attention parce que lui aussi, c'est un fan de Piaf.
Oui, moi j'aime bien.
Non, c'est vrai, non, mais c'est vrai ou pas?
Non, mais j'aime bien. Il dit non, rien de rien.
Tu
devais
chanter sur du Piaf, okay. Justement.
Ce ne sera pas Aya Nakamura, ce sera Scridge.
Mais c'est une bonne question. Tu devrais chanter sur du Piaf?
Surtout. Mais je sais que c'est un admirateur.
J'aime bien le challenge. Regarde, à partir du moment où je chante en arabe déjà, c'est qu'il y a un truc.
Mais oui,
c'est que le gars, il a tout testé.
Mais oui, je veux bien, le gars est guyanais. C'est une terre de mixité.
Effectivement. Bah, justement, en parlant de ton titre Pas de Pakistani, tu chantes en fait dans ta langue natale qui est donc le taki-taki.
Le bushinga taki-taki.
Bushinga taki-taki, excusez-moi. Désolé, je ne savais pas.
Bushinenge.
Bushinenge, ouais.
Bushinenge.
Homme de la forêt.
Homme de la forêt. Alors,
tout à l'heure, si on a le temps, on raconte l'histoire. Il faut savoir qui sont les Bushinenge, c'est pas n'importe qui.
C'est la population, si je crois bien, africaine, enfin, qui a gardé ses cultures africaines.
Ils ont été déportés, je parle devant toi.
Les mecs marrons.
Ils ont été déportés, mais ils ont été déportés comme tous les esclaves,
ouais.
Sauf qu'ils se sont échappés, c'était plus facile pour eux que pour nous les Guadeloupéens, ils se sont échappés dans la forêt, et les colons disaient non, laisse tomber, ils sont trop loin, on va pas les chercher.
Et ils ont conservé leur culture.
Il y a les Saramaka, il y a les Boni et tout ça.
Ouais, ça, je connais, tu sais.
Bah oui.
C'est pas où est-ce qu'il est tombé, attends.
Moi aussi.
Du coup, donc, du Bushinge, et c'est assez nouveau dans ta discographie, donc moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré justement à exploiter cette partie de ta culture, clairement.
Bon, en fait, c'est en gros, moi, déjà dit, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, dans mes auditeurs, tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui savent que je suis guyanais.
D'accord.
Et Pakistani, en fait, ça veut dire pas de fumée sans feu, il n'y a pas de petites choses. Et ça allait avec le thème que j'écrivais à ce moment-là. Donc, en vrai, c'est surtout pour mettre en avant ma communauté de plus en plus. La Guyane, aujourd'hui, même, j'ai fait des sons qui ne sont pas encore sortis, mais dans cette couleur-là, dancehall, tout ça.
Ah ouais, donc c'est nouveau là.
Voilà, je suis en mode afro à fond là.
Parmi tes titres, tes hits, il y a ce titre.
Je sors en club, oh well, t'as un gros boule, oh well, pas tu Salem, oh well, ce soir là, tout va te faire well. Elle sort en club, oh well, t'as un gros boule, oh well, pas tu Salem.
Scridge, ce titre devient un tube. Grâce, entre autres, parce qu'il a fallu composer quand même, à une célèbre application, Explication.
Ouais, Musical.ly.
Ouais.
Bah, ça, ce morceau-là, c'est le premier coup de projecteur que j'ai eu. Donc, en gros, celui-là, il s'est fait d'une manière très naturelle.
Ouais. On est en quelle année, là?
2017. Ouais. 2017. Et en gros, vraiment, ce morceau-là, j'étais vraiment pas prêt.
T'étais pas prêt?
J'étais pas prêt, je savais pas que ça allait avoir ce succès-là.
Et alors, ça t'a dérouté?
On est passé par Musical.ly.
Ouais.
Musical.ly aujourd'hui c'est TikTok.
Ouais.
On est passé sur Musical.ly et ça a pété de là, en fait, c'est parti de là.
Mm-hmm. Respect. Eh. Mais c'est bien, et de dire j'étais pas prêt.
Mais attends, mais comment ça se passe quand on devient viral comme ça à cause d'une musique?
C'était pas prêt en fait. moi je t'ai dit, je travaillais chez Dior, j'étais voiturier.
Ouais.
Et quand ça arrivait, boum, du jour de petit à petit, on te reconnaît, t'es pas prêt à ça en fait. Ta vie, elle change.
La durée, c'est chez Dior.
Ça commence.
Le numérique, on comprend bien les applications, le numérique, tout ça, ça a facilité beaucoup de choses. Est-ce que pour toi également, même si tu as commencé à 24 ans à faire ton premier documentaire, est-ce que pour toi...
T'entends parler, j'ai 100 ans.
Non, mais non. Mais c'est rien. Ok, il y a quelques années, donc... Est-ce que pour toi, est-ce que le numérique a facilité, quand on sait que les coûts de production en Afrique, c'est compliqué de produire sur le continent, même à l'extérieur, mais lorsqu'on est du continent, c'est difficile de produire, est-ce que ça t'a facilité la vie ?
Oui et non. Oui, parce que en termes d'investissement technique, on a moins d'exigences.
Ouais.
Et non, parce que ça nous oblige à aller chercher un peu plus loin que des histoires simples ou alors évidentes à raconter. Parce qu'au fond, tout le monde peut filmer. Prendre une caméra, c'est pas si compliqué. Avec un téléphone portable, on peut faire un film. Mais raconter une histoire, c'est très difficile.
Exactement.
Et donc, c'est une facilité qui a quand même rajouté de la complexité.
J'adore. C'est Jean Gabin. Pff, ça fait genre le mec, il est du... Mais vrai, Jean Gabin, grand comédien français, qui disait, pour faire un bon film, il faut une bonne histoire. Et une bonne histoire. Voilà. Tu as été récompensé ici et là, je pense à Affaire de Nègre, primé à Vérone, à Montréal, à Dubaï, en France à Angoulême, en Isère également, et puis au FESPACO, c'était en 2009. Ton nouveau documentaire nous raconte un autre épisode de la grande histoire, justement, de la lutte contre l'apartheid, et d'un aspect méconnu, Mandela, chef de guerre.
Oui, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film-là, parce que Mandela, on retient seulement l'histoire, l'image du pacifiste, du papy à chemise à fleurs, qu'il est devenu longtemps d'ailleurs après de sortir des Robben Island. Et je trouvais important de montrer une figure moins lisse, plus guerrière d'un Mandela, non pas pour dire qu'il avait une part d'ombre, mais pour montrer qu'il avait une dimension vraiment immense. C'était quelqu'un qui, comme il le disait lui-même au début, on a embrassé la paix parce que ça semblait être le moyen pour arriver à une solution viable des deux communautés en Afrique du Sud. Mais quand il s'est rendu compte que ça ne portait pas du tout, il s'est engagé dans la violence. Et ça... C'est une part de l'histoire de l'Afrique du Sud, une part de Mandela qui est occultée. Je me suis demandé pourquoi et je me suis rendu compte que finalement, le récit national et international n'appréciait pas le fait que Mandela ait été ce leader-là qui a quand même poussé l'ANC à engager la lutte armée. Je crois que c'est aussi l'histoire du capitalisme qui préférait une figure lisse, aseptisée d'un Mandela en Gandhi. Et ce film... que j'ai fait, MK, l'armée secrète de Mandela, restitue cette part de Mandela, cette part de commandant d'une armée de guérilla et toute la part des Sud-Africains jeunes qui parfois avaient 13 ans, 15 ans, se sont engagés pour libérer leur pays. C'était un hommage qu'il fallait leur rendre puisque l'histoire tend à effacer cela.
MK, l'armée secrète de Mandela, MK, traduction ?
Umkhonto Wesizwe, qui veut dire en Xhosa et en Zulu, la lance de la nation.
Laura ?
Tout à fait. Justement, parlant de jeunes, parmi les personnes que vous avez interviewées, certaines ont rejoint le groupuscule, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais on rejoint l'armée du MK.
Oui.
Et pour les plus jeunes adhérents, ils avaient 13 ans, comme vous venez de le souligner. C'était donc des adolescents. Et si on part du principe que le MK était connu pour des actions de sabotage et parfois même allant jusqu'à de l'attentat, je voudrais savoir comment se passait un peu l'enrôlement des plus jeunes. Quel était leur rôle au sein de MK, clairement ?
Oui. Alors, je dois quand même préciser une chose, parce qu'on me dit souvent que c'était des enfants soldats. Non, il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas de razzia d'enfants, c'était des engagements volontaires. Et dans le film, la jeune fille qui a rejoint MK à 13 ans explique qu'elle n'avait pas le choix. Il y avait une telle violence du régime de l'apartheid, du régime blanc raciste de l'apartheid, que les parents disaient à leurs enfants, vous allez mourir si vous restez là. Et quand ils arrivaient dans les camps de MK, on leur disait, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez rejoindre la lutte armée ou alors est-ce que vous voulez repartir à l'école ? Et en général, ils choisissaient de rester dans la lutte armée. Ils avaient une formation politique quand même. Ils avaient une formation militaire aussi, mais aussi intellectuelle et politique. Donc, ce n'était pas vraiment le schéma classique, caricatural de l'enfant qui va faire la guerre.
KJ ?
Vous êtes en fait, aujourd'hui, avec une grande responsabilité, vous créez du lien entre les nouvelles générations et même les anciennes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Est-ce que le fait d'aller chercher ces archives, le fait de rencontrer ces personnes, n'a pas engendré peut-être des risques, étant donné que vous êtes une femme de médias, de culture, et pas forcément une politicienne qui a peut-être accès à tout?
Ça n'a pas été simple au départ parce que Umkhonto Wisizwe, c'est une armée de guérilla, donc c'est des anciens soldats, anciens guérillos, guerrieros, et il a fallu qu'ils me fassent confiance. Donc j'ai mis 4 ans à faire le film. J'avais un ami qui est un ancien membre de MK, cinéaste lui aussi, qui m'a tenu un peu la main. Et puis au fil des rencontres, de mes voyages en Afrique du Sud, ils étaient intrigués. Qu'est-ce qu'une Camerounaise qui vit en France a à faire avec l'histoire de MK? Et je leur disais, c'est mon histoire aussi. Puisque je viens d'un continent qui a été colonisé, je viens d'un continent qui a subi aussi des violences coloniales. Donc raconter votre histoire, c'est un peu parler de moi. Et au fil du temps, un lien s'est créé, ils ont accepté de témoigner. Maintenant, la première a eu lieu, l'avant-première du film a eu lieu en Afrique du Sud il y a 10 jours. Et je crois que c'est là que j'ai le plus été terrorisée, en fait. Parce que je me disais, mais qui suis-je? Je viens raconter leur propre histoire à ces personnes-là. Ça s'est très, très bien passé. Et finalement, c'est une aventure qui a été difficile, longue, mais très forte et très belle.
Et qui n'est pas finie.
Non, qui n'est pas finie.
Exactement. MK, l'armée secrète de Mandela, extrait.
À peine un an après la création de Umkhonto Wisizwe, il a fallu partir à l'étranger pour se former. Mandela a quitté le pays pour rencontrer les dirigeants de pays qui nous soutenaient, comme l'Éthiopie. Il est allé en Algérie, en Égypte, je crois au Maroc. Ce sont les pays qui nous ont invités à venir nous former. Et c'est là que les premiers membres de MK sont allés. Moi, je suis allé à Moscou où nous avons passé 11 mois et demi à apprendre des choses sophistiquées comme les explosifs, comment fabriquer des explosifs chez soi. Nous avons appris la topographie, la lecture des étoiles pour pouvoir se repérer, comment opérer en termes de sécurité clandestine, la surveillance, la contre-surveillance, le combat en milieu urbain et en milieu rural. Nous avons appris la politique, bien sûr, et les armes. Toutes les armes qui existaient nous ont été fournies.
Et franchement, parce que ces hommes-là, il faut vraiment voir le documentaire, lorsque ces hommes vous racontent les tortures subies, puisque là on vient d'entendre donc des membres de cette armée qui ont été formés dans plusieurs pays d'Afrique et pas seulement, pays de l'Est également, dans l'ex-bloc de l'Union soviétique, Allemagne de l'Est.
Mmh,
il faut entendre ces hommes dire ce qu'ils ont subi. C'est terrible. Peut-être si on a le temps tout à l'heure, on écoutera un autre extrait. C'est important parce que ce que l'on vient d'entendre là, Oswald, nous permet de rappeler que des pays africains, eh bien, ont été partie prenante de cette lutte contre l'apartheid.
Oui, les pays frontaliers, ou même un peu plus loin. Hein. Je sais que, par exemple, qu'ils m'ont raconté, les hauts cadres de MK, que Thomas Sankara leur a offert, le Burkina Faso n'était pas très riche, mais il leur a offert 10 AK-47. Pour combattre le régime de l'apartheid. Il y a le Gabon qui les a soutenus, mais tout autour, il y avait la Zambie, il y avait le Mozambique, l'Angola, il y avait les camps d'entraînement en Angola, en Tanzanie. Cette solidarité africaine, moi, m'a fortement émue, parce qu'en fait, je ne la connaissais pas. L'histoire de la lutte anti-apartheid, je connaissais finalement très, très peu de choses. Et quand j'ai découvert les discours de Nyerere et aux côtés de Oliver Tambo, ces leaders-là, je me suis dit, il y a eu quand même une époque où, quand un pays africain était attaqué, on se sentait tous concernés. Les choses ont quand même changé de ce point de vue-là.
Elle voulait le dire, elle l'a dit. Nous sommes d'accord. Scridge, ce combat-là, cette histoire-là, elle est importante aussi, toi, dans ta vie d'homme, de construction d'homme et descendant d'un peuple qui a lutté.
Oui, dans tout, c'est important.
Ouais.
C'est important quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On sait très bien que l'Afrique, c'est le futur. Donc tout, il faut apprendre à... Comment expliquer? Il faut apprendre à... à prendre le temps pour nous aussi.
Exactement.
Mettre de côté le côté musique et prendre le temps de, comme tu as dit dans le message, savoir d'où on vient vraiment.
Exactement.
Mais vraiment, vraiment, parce qu'il y a des antécédents.
Oui, oui, mais c'est clair. Et toi, tu sais.
Je voulais dire à Scridge que dans le film, il y a beaucoup de musique. Parce que pendant les entraînements dans les camps, il y avait les armes, mais il y avait la musique. Et la musique leur servait à lutter aussi mentalement, à être fort et à être prêt à se battre.
C'était comme un médicament pour eux, quoi.
Comme quoi ?
La musique, comme un médicament pour eux.
C'est une énergie, comme les peuples affront. Les peuples affront, il y a toujours de la musique dans tous les combats, dans toutes les luttes.
Tout à fait.
On chante, tu vois.
Ça fait du bien, la musique.
Tu vois, lorsque, par exemple, notre réalisateur, encore lui, lorsqu'il chante « Ouais, la Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas Taillot », lorsqu'il dit « Oui, libérez la Guadeloupe », lorsqu'il chante du Akio, enfin voilà. La violence, puisque tu parles de musique, la violence de l'apartheid est également dans la culture et dans l'enseignement. Autre extrait, donc, de MK, l'armée secrète de Mandela.
Les événements du 16 juin 1976 ont commencé parce que les enfants boycottaient l'Afrikaans comme langue d'enseignement. Et je les comprends parce que l'Afrikaans est une langue très difficile. Vous ne pouvez pas étudier les mathématiques ou faire de la géographie ou de l'histoire en Afrikaans.
Et l'Afrikaans était vraiment détesté en tant que langue. Non pas parce que les gens aimaient les Anglais, mais l'Afrikaans avait été utilisé comme langue d'oppression. Et les enfants en avaient assez de l'oppression.
Hey, franchement, j'ai jamais oublié tous ces enfants morts justement pour avoir refusé d'apprendre cette langue qui est moche d'ailleurs en plus, mais cette langue coloniale, quoi. Très clairement.
La belle histoire, c'est que le film a été montré il y a quelques jours, enfin avant que je ne rentre, dans l'école de Soweto, d'où est parti. Les premiers soulèvements, en fait, du 16 juin. Et ces enfants-là ont été les martyrs, en fait, les martyrs de la cause, de la lutte anti-apartheid. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec le recul de l'histoire, c'est de se dire que les bourgs, le régime raciste de l'apartheid, pensaient qu'ils allaient les écraser, que c'était la fin, en fait, tellement ils ont été violents. Mais c'était le début, puisqu'il y en a qui ont dit « Notre sang va nourrir l'arbre de la liberté ».
Je voudrais juste dire que parmi les hommes qui ont été, les combattants qui ont été interviewés, que l'on voit dans ton documentaire MK, l'armée secrète de Mandela, il y a des Noirs évidemment, Indiens, Blancs, il est de confession juive, et dire que c'était tout ça, l'Afrique du Sud, et certains, malgré le fait qu'ils auraient pu, et je pense justement à Ronnie
Kasrils,
il aurait pu justement se dire « non, moi je ne suis pas concerné par tout ça », et lui aussi a pris les armes, et lui aussi a été emprisonné, lui aussi a été torturé.
Oui, parce que Ronnie Kasrils, qui est d'origine juive lituanienne, estimait que sa famille avait subi des pogroms en Lituanie. Et il se disait « Il est impossible pour moi que je sois indifférent dans un milieu où des personnes comme moi, parce qu'elles ont une différence de couleur, elles ont une couleur différente, soient opprimées. » Et c'est ça qui l'a vraiment porté et qui l'a poussé à 23 ans quand même à s'engager au MK et à passer 30 ans de sa vie dans le bush, à se battre sans relâche. C'est aussi un écho avec le monde contemporain aujourd'hui où on se sent moins concerné par ce qui arrive aux autres. Je prends par exemple le cas de la Palestine, où on a le sentiment que c'est à Gaza, c'est eux, ça ne nous ressemble pas. Et on peut être indifférent. Moi, j'ai fait un film en Israël, j'ai fait un film à Sderot, à la frontière, donc je connais cette région-là. Et j'ai filmé, que ce soit des Israéliens ou des Palestiniens, qui estimaient qu'ils avaient une fraternité, malheureusement, que la politique était en train de détruire. Et aujourd'hui, on peut voir le résultat.
Merci beaucoup, que ce soit toi qui le dise. Merci à tous. C'est si bien dit, avec les nuances qu'il faut. On va rendre hommage à une femme qui, elle aussi, a lutté contre le régime de l'apartheid. Elle a vécu, enseigné aux États-Unis, elle a enseigné sur le continent, et je pense à celles et ceux, probablement, qui nous écoutent à Abidjan, à Bingerville, au lycée de Bingerville. Peut-être que les anciens de Bingerville se souviennent de cette professeure, Maryse Condé, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril, l'une donc des grandes plumes du XXe siècle et du XXIe siècle s'est tue un esprit libre dans cette société française, toujours entre deux sentiments et gouvernance de ces territoires hérités de son empire colonial. Maryse Condé était une anticolonialiste donc et indépendantiste pour sa Guadeloupe. Pour parler d'elle et rendre hommage à Maryse Condé, avec nous la comédienne et femme de télévision également, Nathalie Coaly. Merci Nathalie d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Pour celles et ceux qui te suivent ou qui ont peut-être assisté à ton spectacle en Guadeloupe, tu mets en scène, tu joues une pièce donc et qui est tirée d'un ouvrage de Maryse Condé, Désirada. Tu la joues en Guadeloupe. Je sais que tu souhaites la jouer également à Paris. Je voudrais que tu nous parles de ce lien privilégié que tu avais avec notre grande Maryse Condé.
Ben, je crois que je l'ai toujours, hein, je l'aurai toujours. en fait, c'est une pièce, j'ai demandé, un jour j'ai rencontré Maryse, j'ai été présentée à Maryse par Jackie Dahomé, qui est un philosophe, professeur de philosophie à la Guadeloupe, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette femme. Et puis je lui ai demandé, j'ai osé lui demander de... Je lui ai dit, voilà Maryse, j'aimerais bien que vous m'écriviez un seul en scène. Et comme je faisais de l'humour au théâtre, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus... enfin, à l'opposé de l'humour, quoi, voilà. Et elle m'a donc proposé d'adapter son roman Désirada. Mmh. Et c'est sa première adaptation théâtrale, enfin d'un de ses livres. Elle a écrit des pièces de théâtre, mais elle n'avait jamais adapté un de ses romans. Et donc, elle a adapté celui-là, que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à monter pour diverses raisons. Et que maintenant, on a effectivement, la région Guadeloupe m'a demandé de jouer cette pièce pour le lancement de l'année Maryse Condé cette année, donc à la Guadeloupe, ouais. Voilà, 2023-2024. Et je l'ai joué un peu avec plein de petits bouts de ficelle. Je suis accompagnée d'un musicien fabuleux qui s'appelle David Blamèble. On sait l'importance qu'avait la musique. Je vous entendais tout à l'heure parler de musique comme médicament. Comme le zouk d'ailleurs.
On t'a vu venir. On t'a vu venir.
Bravo. Bravo. Vous m'avez tendu la perche.
Bravo.
Et Maryse aussi est très adore la musique. Et d'ailleurs, il y a donc de la musique dans cette pièce, dans ce livre.
Alors, je voudrais que l'on entende Maryse Condé justement nous parler. Et alors moi j'ai posté sur mes réseaux sociaux lorsqu'elle parle de toi, lorsqu'elle dit tout le bien qu'elle pense de toi sur le travail que tu as effectué autour de son œuvre. Mais je voudrais qu'on écoute là Maryse Condé, c'était le 31 janvier 1979, et elle parlait de son écrit, elle parlait justement de la civilisation du Bossal.
Dans cet ouvrage, Maryse Condé, vous essayez de cerner la personnalité du Bossal, finalement, du nègre amené d'Afrique aux Antilles.
Oui, je crois qu'on n'en a jamais fait un portrait, comment dirais-je, intérieur. On a décrit la façon dont il est habillé, dont il est nourri, le traitement qu'il reçoit de la part de son maître. Mais je crois qu'on n'a pas, enfin, c'est peut-être prétentieux de dire, il me semble qu'on n'a pas essayé de cerner sa psychologie. Alors, je me suis efforcée de deviner, de découvrir à partir des contes et des proverbes et de la littérature orale dans son ensemble, ce que cet homme qui arrive d'Afrique et qui est plongé dans un univers tellement nouveau et différent peut penser de lui-même et de ses rapports avec le monde autour de lui. Le propos du livre, justement, c'est de penser qu'il arrive dans un univers et qu'il est complètement coupé de ses racines. Et qu'il est entouré de gens qui lui disent, qui lui imposent une sorte de vision de lui-même. D'abord son maître, qui a de lui une image évidemment négative, puisqu'il est son esclave, puisqu'il est sa chose. Le voyageur qui arrive de l'Europe et qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'un noir, ce que c'est qu'un africain. Le prêtre, qui bien qu'il soit chargé de sauver son âme, a dans le fond beaucoup de mépris pour cette brebis qui est sous sa garde. Finalement, il est entouré de gens qui ne le connaissent pas, qui ne le comprennent pas et qui le méprisent. Donc, je veux prouver que le regard de ces gens sur lui l'a influencé et l'a amené à intérioriser toute une série de complexes et de stéréotypes qui sont véhiculés dans la littérature orale. Ce n'est pas qu'il ait une mauvaise opinion de lui, c'est qu'on lui donne, qu'on le force à avoir une mauvaise opinion de lui-même.
Maryse Condé. incroyable. Oswald, incroyable comme ce propos de 79 est toujours d'actualité lorsqu'on parle des peuples afro, qu'ils soient du continent ou il y a Skrill qui a envie de parler lui aussi, ou des Caraïbes ou des Amériques, Amérique du Sud, comme Skrill, incroyable.
Oui, non, mais c'est moi j'ai l'impression que c'est une interview, et en plus cette voix tellement présente, on a l'impression que c'est une interview qu'elle a donnée il y a quelques jours, et c'est aussi ça en fait le travail que je fais, c'est rappeler aux gens qui on est, qui on a été, et pas seulement qui on nous a dit qu'on était, en fait. Parce que finalement, on se perçoit à travers un prisme. Et ce prisme-là, c'est le prisme du dominant. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a contribué à combattre, à rectifier.
Oui. Très clairement. Que représente Maryse Condé, Skrill, également, pour toi?
Je vois que la société, elle évolue pas pareil. C'est les mêmes messages, en fait.
Ouais.
Je pense comme elle, en fait. On a la même vision de...
Ouais. Alors, tu sais, je te recommande, lis Maryse Condé. N'est-ce pas, Nathalie Coaly? Il faut lire Maryse Condé.
Ah oui. Oui.
Bon, je vais découvrir encore plus d'avantages.
Ouais.
Ouais. Bon, je vais en recherche.
Et ben voilà.
J'ai pas compris qu'est-ce que vous avez dit.
Non, mais Skrill, justement, il a envie maintenant d'aller beaucoup plus loin et de lire.
Lisez, vous savez quoi? Lisez Desirada, parce que Desirada, c'est rigolo, on m'a beaucoup dit que c'est un... Enfin, il y a deux, trois personnes qui sont très proches de Maryse et qui la connaissent depuis longtemps et qui m'ont dit qu'en fait, c'est un roman qui lui ressemblait beaucoup et c'est un de ses plus beaux romans, je crois, et qui est un petit peu passé à côté.
C'est vrai.
Et puis si on veut vraiment découvrir Maryse pour aller vite comme ça quoi, et lire un de ses derniers livres, c'est La vie sans foi, c'est La vie sans phare.
Ouais.
Tout à fait. Et là, même moi, je lui ai dit, Maryse, non, moi, tu dis des choses là.
Je pense que Oswald Lévat l'a lu, qui a dit tout à fait. Oui. Elle est d'accord. Je voudrais juste dire que Desirada, tu souhaites jouer donc à Paris, que c'est pas si facile que ça. Je sais que tu allais lancer justement une cagnotte en ligne.
Ouais, ça me gêne un peu d'en parler maintenant.
Bon, alors, en tout cas, tu viendras dans Couleur Tropicale pour parler de ce spectacle. Et puis nous, ce jeudi, dans Couleur Tropicale, nous rendrons à nouveau hommage à Maryse Condé. Et ce sera l'occasion, justement, de parler de Desirada et de ce dont tu as besoin.
Je veux bien. Est-ce que vous me permettez de vous lire juste une petite citation de Maryse?
Très vite, oui, bien sûr.
Qui dit, oui, les mots, c'est bien connu, ne servent pas seulement à créer du sens. Ils jouent, ils font l'amour. Ils composent une musique.
Maryse Condé. Maryse Condé qui est un trait d'union vraiment entre l'Afrique et puis les Antilles, les Caraïbes et les Amériques afro. Merci infiniment Nathalie Coaly d'avoir été avec nous.
Mais c'est moi, merci à vous tous, merci beaucoup.
Merci. Skrill, on sait maintenant, on a un nouveau gars qui va lire du Maryse Condé. Omaye, Skrill.
Omaye, Omaye.
Écoute ça.
Y'a que pour toi que je peux changer. J'ai dit, je t'attends dans la Rover.
Soit t'es dans ma vie, my love. Soit t'es contre nous,
my love.
En France, des
pics à tout va.
Faut qu'on arrête
avec ça.
Y'a que pour toi que je peux changer. Baby,
là je suis dans l'émotion. I think I love you. Baby, slow motion.
I think I love you.
I think I love you. Oh my, yeah, yeah. Oh my, oh my, yeah, yeah. Oh my, yeah, yeah. Oh my, oh my, yeah, yeah, yeah. Oh my, yeah, yeah. Oh my, oh my, yeah, yeah. Oh my, yeah, yeah. Oh my, oh my, yeah, yeah.
Yes, Skrill, oh my, yeah. Ton dernier EP, deux titres.
Ouais, deux titres.
Est sorti le 13 février, c'est en février, sorti en février.
Ouais, c'était février, en février.
C'est en février.
C'est en février.
Je me trompe sur la date, mais donc il est déjà disponible. Donc voilà, c'est le moment. Alors c'est vrai, quelqu'un de l'équipe de Couleur Tropicale dit, un EP, il n'y a que deux titres. J'ai dit, oui, mais c'est comme à l'époque des 45 tours, tu vois, il y avait la face A et la face B.
Il y avait juste l'instant.
Kenji.
Musique?
Non, mais non,
non
mais,
bah,
je sais pas, je sais que tu voulais pas aller en Amérique du Sud.
Je voulais aller en Amérique du Sud, voilà. Donc, tu as quand même déménagé en République Dominicaine. Et est-ce que...
Non, j'ai pas déménagé là-bas, en Espagne.
C'est pareil, il parle espagnol. C'est pareil, il parle espagnol. C'est pareil, il parle espagnol. Ah, là, donc en Espagne.
Et t'as été en République Dominicaine.
Oui, j'ai été. Ouais, par contre, j'ai été, ouais, ça c'est vrai.
Attends. Tu as voulu la tromper.
Ouais,
tu as voulu cacher son nom.
J'aime bien la taquiner. Un peu.
Taquinon. Oui, bah, taki-taki, c'est bon.
Pas mal.
Ah, tu vois.
Allez.
Est-ce que, dans tous les cas, le fait de te confronter à cette culture plutôt latine et coloniale omniprésente, mm-hmm. Et les différentes discriminations, ça t'a poussé à aller plus en profondeur dans ta culture, toi, afro-descendante, et à vouloir justement la revendiquer. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as senti
c'est tout ce qui se passe autour, dans la famille, les arrière-grands-pères, tout ce que je vois en fait, parce que je suis noir, quand je vois mon peuple souffrir, oui, bah, je suis obligé de mettre en avant encore plus ma culture, parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde, il faut se souder en fait, faut pas oublier d'où on vient, c'est important, moi je trouve.
Imposer, enfin... présenter sa culture, la mettre en valeur, ce n'est pas s'opposer à l'autre, mais
non, c'est
dire qu'on est.
Non, c'est se mélanger, voilà. Même c'est culinairement parlant, tu fais découvrir un plat de chez toi, tu vois, ça fait plaisir.
Non, pas, voilà ce qu'on fait, le dombré, je veux pas qu'on mette des nems dedans, ok.
Non, nous le bami, ça reste du bami en gueule.
Ah oui,
vas-y, tu vois, faut pas toucher.
Laura. Alors, la plupart de tes textes, en tout cas, touchent très souvent au thème de l'amour. Je pense notamment à Samira, qui a été fait quand même en 3 fois.
Ça s'appelle une trilogie.
Mais il y a eu des histoires après. Bon, lui, il aime l'amour, c'est un romantique. Mais du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est lié à une histoire personnelle?
En fait, il y a de la réalité et de la fiction. En fait, il y a ce qui m'est arrivé à moi dans la chanson, à une telle ou telle partie, mais aussi ce que je vois autour de moi, parce que c'est beaucoup, beaucoup ce que je vois autour de moi, en fait. Parce que d'ailleurs, dans les banlieues, il y a plusieurs nationalités mélangées, des cultures différentes, des religions différentes. Et c'est important de mettre, entre guillemets, autour d'un art, quelque chose de social, tu vois, un problème social, parce que c'est un problème social, ça, le racisme.
Qui est Monica? Qui est Monica?
Monica? Ouais. Monica, c'est personne, c'est comme si tu disais Maria.
Tu m'as eu sur ce goût-là. Monica Scridge. Ce titre-là date de...
C'est celui-là, c'était en 2016. Mmh. Putain, ça me vieillit, ça, 2016. Mais,
attends, ça te vieillit. Écoute-le nous dire ça, lui.
Il t'a pas dit 24 ans plus tôt.
Ouais. Tu vois,
attends. De toute façon, on vient avec notre temps, moi j'ai envie avec notre temps.
Attends, quand même. Alors, il nous reste très peu de temps pour écouter et apprécier, j'espère que vous apprécierez les choix musicaux, donc, de Laura et KJ, et on commence avec Laura.
Bah écoutez, moi je vous présente un artiste qui s'appelle Mathieu White, un petit artiste montant de la scène caribéenne.
Tu connais Scridge, Mathieu?
Mathieu White, non, je connaissais
Mathieu
pas.
Mathieu White, très très bien à écouter, bah d'ailleurs je vous laisse écouter son titre Coup de Vent avec Yongshan.
Ouais, Yongshan MC.
MC.
Ah, Yongshan MC, bah oui.
On a tout suivi de lui.
Ça c'est quand Christ, tout le monde, lui c'est à l'époque de Christ, tout ça.
C'est ça, exactement. Écoute ça.
On pas besoin de problème. J'ai pas le temps pour ça, sorry. Je veux qu'on kiffe la vibe. Je me souviens même plus de ton prénom. Et je dois la serrer, et je dois la cerner. Elle est bien servie, les claquettes jusqu'au serre-tête. Même si on y fait, t'es à moi, en cas adaptez-moi. C'est un crime de guerre quand je vois tomber ta serviette. Je griffe, il ne faut rien enlever. Elle met sa langue quand j'ai les doigts en V. Baby, pouvez jouer, j'ai danger. Mais là, pas ni règle, pas ni plaire. L'enfant pas vine, depuis le lâche. Ou changer vos comptes, n'est qu'à débarquer le havre. Pas bise et bime, ni on ni fan. Photo mentale, ça imprimé ça dans le
Coup de Vent, Mathieu White featuring Yongshan MC. C'est le choix de KJ. Alors de Laura, pardon, de Laura. Non, parce qu'au moment de la chanson, lorsqu'il dit, lorsque je mets mes doigts en V.
J'ai regardé, j'ai gueulé.
Et donc, on a vu Oswald. Non, mais en tout cas, c'est une façon poétique de dire les choses. Certains chanteurs et rappeurs disent les choses de façon beaucoup plus vulgaire.
Bah, il est lourd le son.
Il est lourd. Rien à dire. Moi,
alors, pour rester dans la poésie, on va aller dans la poésie du rap cubain. Voilà, là, ce soir, j'ai envie de mettre en avant des femmes militantes par leur art. Et donc, vous allez écouter Digan Loke Digan de Telmarie Diaz.
Et l'ambiance est très...
On est entre le trait du salsa,
sonne, il y a un peu qu'on sonne également. Voilà. Et tout ça avec du rap. On écoute, extrait.
para el universo, aunque no dependa de ti o de mí.
Digan lo que digan.
Pongo empeño, fuerza, mi dulzura y mi cultura en el decir.
Digan lo que digan, voy a pedir.
H pa' todos los músicos del mundo que están y no están aquí.
Digan lo que digan.
Que lo diga Yemayá, hasta que sus hijas venga a bendecir. En los mares espirituales sean mis ganas de vivir. En esa tierra llena de riquezas espirituales, donde nací, donde quiero morir. Pa' mi mamá que siempre vela por mí.
Digan lo que digan.
They say what they say, they mean what they mean. It's up to you what to believe.
Digan lo que digan, voy a pedir.
Anda por la vida llena de amor, radiante y feliz.
Digan lo que digan.
Que lo diga Yemayá.
Anne-Marie et Abana Sana pour... Elle m'écoute plus, on applaudit parce qu'on aime bien le son. Ça fait du bien d'écouter.
Ouais, il y a des musiques... Dans ma vibe, là.
Mais oui, il y a des musiques qui passent plus en radio, en télé. C'est la salsa, c'est le son.
Mais c'est lourd, ça fait tu barres un peu tout ça.
Bah, MK, l'armée secrète de Mandela. Je voudrais qu'on écoute un troisième et dernier extrait. Il s'agit des vétérans qui parlent de leurs conditions aujourd'hui.
I don't think...
Je ne crois pas que nous étions conscients, que j'étais conscient du traumatisme dû à MK.
That we carried from MK.
Comme je l'ai dit, c'était une autre planète, un autre monde. Quand je suis rentré en Afrique du Sud, j'étais devenu alcoolique. Cela m'a séparé de la mère de mon fils. J'ai arrêté de boire en 1996. Puis j'ai changé d'addiction. Je suis devenu un consommateur de substances. Consommateur de substances, c'est la façon chic pour dire que j'étais toxicomane. Aujourd'hui, j'ai surmonté ma toxicomanie. C'est un jour à la fois. C'est un combat. Mais vous savez, j'ai un programme et je le suis.
What is my most painful moment?
Ce qui est le plus douloureux pour moi, c'est ce que cela nous a coûté. Ce sont nos épouses et nos enfants. Ce sont eux qui ont vraiment, vraiment le plus souffert. Ce sont eux qui ont fait le sacrifice. Moi, je n'ai pas fait de sacrifice. J'ai fait un choix. Mais mon choix leur a infligé une souffrance qu'ils n'ont pas choisie.
Which was not their choice.
On vient d'entendre la voix de ce combattant, de ce vétéran, Mac Maharaj. C'est lui qui est d'origine indienne, donc, et c'est lui que l'on entend dire, ben voilà, les souffrances ont surtout été pour les familles. Laura.
Est-ce qu'on sait ce que sont devenus ces anciens combattants de MK, justement?
Oui, ils sont en Afrique du Sud pour la plupart. Ceux qui sont allés souvent très jeunes et qui n'ont pas eu de formation, quand ils sont revenus, personne ne les attendait. Voilà, ils se sont retrouvés dans l'armée et parfois, aujourd'hui, on les voit dans la rue. Il y en a beaucoup qui sont SDF. Et il y a une vraie ingratitude de l'État sud-africain pour ces gens-là qui ont sacrifié leur vie pour libérer leur pays.
Je voudrais qu'on applaudisse Oswald Lévesque pour ce documentaire, MK, l'armée secrète de Mandela. On a entendu au début du dernier extrait la voix de Lilian Thuram, parce qu'il y a des gens qui sont venus me donner leur voix, comme
toi
ça.
Aussi. Toi aussi, oui.
Toi aussi. Il m'a dit, c'est là de l'en
J'ai réussi, puisque il a dit...
Non, mais ça va, nous, on se retient depuis tout à l'heure.
Non, mais parce que Oswald était sur France 24 dans l'émission à l'affiche, et je lui ai dit, non, mais je voulais pas qu'on parle de moi, enfin, c'était pas très important, et vous venez vous donner mon nom.
Bah oui.
Et il est excellent. Alors, j'ai passé une annonce, si vous voulez quelqu'un pour faire des doublages voix, Claudicia est parfait.
Bon, merci beaucoup. L'avant-première du film, ce jeudi 4 avril, donc à 20h au MK2 à Bastille, c'est à Paris. Et puis sur Arte, donc à 23h, mardi 9 avril, MK, l'armée secrète de Mandela. Merci infiniment. On se débat. Oh, allez, Scridge est avec nous, il va reprendre les dates sur scène à partir du mois de mai.
Ouais, à partir de maintenant, on est actif, on revient, on prépare l'été, les gars.
Exactement, merci Laura, merci Gadget.
J'étais bien, super. On se retrouve demain. Hein.